Bon, on va poursuivre notre étude sur le survol des différents livres de la Bible. On est rendu à Esther dans la deuxième partie. Normalement, la plupart des livres, c'est de même qu'on fonctionne. Alors, on va compléter notre étude du livre d'Esther en examinant trois choses en particulier concernant ce livre-là. On va regarder d'abord Satan, le grand adversaire qui est à l'œuvre. À l'intérieur du livre, on voit très bien la main de l'ennemi à l'intérieur de ce livre-là qui agit. On a aussi plusieurs leçons morales. Il y en a fort probablement beaucoup plus que ce qui est mentionné dans le texte qu'on va regarder ce soir. Et on va regarder un petit peu l'ensemble du contenu du livre. Alors, on va commencer par le premier point. Satan, le grand adversaire à l'œuvre. Alors, celui qui se cachait derrière Aman pour l'influencer et l'inciter à envisager le génocide des Juifs n'est autre que le diable, le grand adversaire de Dieu. Cette tranche d'histoire relate un effort classique de Satan pour contrecarrer les plans de Dieu concernant la naissance du Messie. Imaginez que s'il avait réussi à éliminer le peuple juif, Jésus était censé arriver par les Juifs. Alors, vraiment, l'ennemi travaille à voulait comme éliminer la lignée des Juifs pour que le Messie n'arrive pas. Alors, l'annihilation des Israélites, et surtout ceux de la tribu de Juda, aurait privé Dieu de toute possibilité de réaliser ses promesses dans plusieurs chapitres. Dans Genèse 49, 2 Samuel 7, 1 Roi 11. Alors, Aman agissait comme agent du diable en cherchant l'extermination des Juifs. N'oublions pas qu'Assuérus était roi de tous les Juifs, aussi bien de ceux qui se trouvaient en Perse et à Babylone, ainsi que de ceux qui étaient retournés en Juda. Le diable savait que le libérateur qui devait venir parmi les descendants de David détruirait son pouvoir. C'est pourquoi il avait inspiré à Saül le projet d'éliminer David. À deux reprises, le roi avait jeté sa lance contre David et l'avait manqué. Puis il l'avait pourchassé sans répit à travers le pays. Le diable avait aussi poussé la reine Athalie à faire périr toute la lignée royale. C'est encore lui qui mit au cœur d'Aman le désir de venger la prétendue insulte qu'un homme lui avait infligée en éliminant toute sa race. Des années plus tard, le même esprit malveillant et malfaisant incita Hérode à tuer le Christ en envoyant tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans son territoire. Alors, l'intention du roi, c'était vraiment de tuer. Il savait que c'était le Messie qui était puis dans tout le territoire. Il ne voulait pas manquer son coup. Il a tout tué sur votre 2 ans. Alors, on voit la main de l'ennemi qui travaille continuellement. C'est important de voir ça quand on lit les Écritures. À chaque offensive satanique, le Seigneur délivra son peuple, sauvegarda son plan de grâce d'envoyer son Fils dans le monde. L'Écriture annonça l'hostilité. Satan infligea réellement des souffrances au Sauveur, mais le Fils de Dieu triompha de toute adversité et de toute opposition. David l'avait prédit et les premiers chrétiens le comprirent. Ça dit dans Actes 4, versets 27 et 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Si Aman illustre les forces du mal, Esther symbolise celle du bien. Comme le Sauveur, elle s'expose au danger de mort pour son peuple. Mais contrairement à Christ, elle fut merveilleusement délivrée. La mort du Sauveur était nécessaire pour sauver son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. On peut aussi voir dans son intercession en faveur de son peuple une autre ressemblance entre Esther et le Seigneur Jésus qui intercède pour son Église. On lit par exemple dans Hébreux 7, 25, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ça, c'est dans Romains 8, 34, puis aussi Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le deuxième point qu'on regarde, c'est les leçons morales du livre. Une des leçons morales, c'est la beauté intérieure. Bien souvent, Esther, elle avait comme un avantage. Elle était belle, comme ça dit dans le texte au chapitre 2, verset 7. Elle était belle de taille et belle de figure. Mais elle n'était pas juste belle extérieurement, elle était belle intérieurement également. Ne faites aucun doute que sa beauté physique fut un critère déterminant du choix d'Assuérus. La suite du récit indique toutefois que les traits de caractère de la jeune femme jouaient un grand rôle dans l'attrait qu'elle exerçait. Elle était humble et soumise, mais n'était pas dépourvue d'un courage hors du commun et d'une grande détermination. La parole de Dieu met en garde contre le souci exagéré de la beauté extérieure. Dans Proverbe 31, verset 30, ça dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Et dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 et 4, ça dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » À une époque où la beauté du corps est devenue l'idole du 21e siècle, où la société est obsédée par l'apparence physique, il importe que les chrétiens ne se conforment pas au monde, mais qu'ils soient transformés par le renouvellement de l'intelligence, comme ça dit dans Romains chapitre 12, verset 2. La façon de se nourrir et la hantise du poids peuvent facilement devenir une fixation et entraîner de graves troubles psychologiques. L'esprit doux et paisible que prône l'Écriture est impérissable. Il est la vraie beauté, non celle dont se part, mais celle qui est innée. Ce n'est pas une chose terrestre, corporelle, extérieure. Elle est inhérente à l'âme. Les vertus qui conviennent aux femmes pieuses concernent aussi les hommes pieux. C'est l'homme intérieur qui compte. N'était-il pas annoncé à propos du Seigneur? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe, chapitre 53, verset 2. La beauté intérieure s'exprime par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand on regarde la liste ici, ça dit que c'est des fruits de l'esprit. Et quand on regarde chacune des choses qui sont mentionnées, puis on s'examine à la lumière de ces critères-là, oh, là, on s'aperçoit qu'on est loin de l'objectif. En tout cas, dans mon cas. Dans votre cas, je ne sais pas. La deuxième leçon morale du livre, c'est très certainement celui de la soumission à l'État. Alors, Mardochée et Esther montrent combien des gens pieux doivent se conduire sous un gouvernement impie. Le Nouveau Testament insiste sur les devoirs du chrétien comme citoyen modèle. Alors ici, on cite Romains 13 et 1 Pierre 2, versets 13 à 17. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu établit. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Dieu commande à tous ceux qui le craignent, à tous les chrétiens, de respecter les gouvernements dûment constitués au sein de toute nation, quelle que soit leur moralité et leur norme éthique. En cas de conflit entre l'obéissance due à Dieu et celle due à l'État, comme ce fut le cas dans un épisode particulier de la vie de Pierre et de Jean, l'obéissance à Dieu prime toujours. Alors, le principe général de l'obéissance aux autorités civiles est là, mais aussi le principe que quand il y a un conflit entre les deux autorités, on se doit de donner priorité à Dieu. Parce que des fois qu'on est à la limite, là, on est vraiment sur la ligne, à quelque part, c'est ça qui rend la chose difficile. Alors, il n'y a aucun mal à ce qu'une personne pieuse soit élevée à une position de responsabilité et occupe un poste de confiance sous un gouvernement impie ou par la décision d'un roi païen. À cet égard, les Juifs pouvaient revendiquer un riche héritage. Joseph et le pharaon d'Égypte, Abdias et le roi Akab en Israël, Daniel et Nabuchodonosor à Babylone, Néhémie et Artaxerxès, roi de Perse. Alors, les Écritures nous donnent plein d'exemples d'hommes de Dieu qui, sous des gouvernements difficiles, ont agi saintement. C'est très intéressant de voir ça aussi. Alors, tout en restant loyal à son souverain, aucun de ces hommes ne compromit sa fidélité à Dieu. Ils ne purent pas empêcher les mauvaises décisions prises par le gouvernement auquel ils participaient, mais en se gardant eux-mêmes du péché, ils ont peut-être influencé en bien l'avenir des nations qu'ils gouvernaient en partie. Ces hommes n'ont pas non plus sacrifié leur loyauté à leur propre peuple. Voici ce qui est dit de Mardochée, chapitre 10, verset 3. Très intéressant. Un homme que Dieu a élevé aux plus hautes fonctions dans un gouvernement, voici ce que ça dit de lui. Il y aurait des politiciens qui auraient intérêt à méditer ce verset-là et à l'appliquer dans leur vie. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Alors, ça veut dire qu'il était très haut dans la structure politique. Considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Est-ce qu'il y a des politiciens qui agissent de même de nos jours? Possiblement, mais il y en a de moins en moins, je rapporte ta pensée. Alors, le patriotisme n'est pas incompatible avec la religion sous sa forme la plus pure. Mardochée consacra beaucoup de temps à rechercher le bien de son peuple. Précisons qu'il s'agissait du bien de son peuple et non de celui d'une classe particulière ou de quelques privilégiés. Aujourd'hui, c'est la tendance. Alors, son amour était sans partialité. Lui qui ne pouvait se prosterner devant un ministre pervers n'était certainement pas un homme à fausser la justice par égard pour des personnes. Une autre leçon morale, c'est les occasions qui nous sont données par Dieu. Dans le service de Dieu, il arrive que les occasions ne se présentent qu'une fois dans la vie. Comme le dit Mardochée à Esther, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Chapitre 4, verset 14. Il y a des situations qui sont spécifiques à chaque chrétien, des occasions d'honorer Dieu et de témoigner de sa grâce peuvent se présenter tout à coup. Le chrétien doit être à l'affût et se préparer à de telles éventualités. 1 Pierre 3,15 dit « Sanctifiez vos cœurs à Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Nous aurons peut-être, à certains moments, comme Esther, à risquer notre vie pour la cause de Dieu. Ça ne nous est pas arrivé encore, mais qui dit que ça ne nous arrivera pas un jour? Alors, quatrième leçon qu'on apprend dans ce livre-là, c'est la protection souveraine. Matthew Henry, qui est un commentateur bien connu chez les presbytériens, a dit « Bien que le nom de Dieu n'apparaisse pas dans le livre, son doigt, lui, est bien présent. » Le livre d'Esther a sa place dans l'Écriture à cause de son message éloquent. Dieu est toujours à l'œuvre pour protéger son peuple, même aux époques les plus sombres. Et je pense qu'on est dans une époque très sombre. Dieu est à l'œuvre, était à l'œuvre à cette époque-là, il est encore à l'œuvre aujourd'hui. C'est le livre par excellence de la Providence, comme ça dit dans Romains 8, 28. Quel verset? Un verset qu'on pense qu'on comprend. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein. Toute chose, c'est toute chose. On a de la misère, des fois, il nous arrive des affaires. Ben voyons donc, moi, si j'ai besoin de ça, moi, là, là. Ben oui, c'est ça que tu avais besoin, parce que c'est ça que Dieu t'a envoyé. Dieu s'intéresse à tout ce qui se fait sur la terre. Il n'est pas un propriétaire absentéiste. Il voit, entend, sait et contrôle tout. Le Seigneur Jésus-Christ exerce une domination de force et de grâce sur son royaume. Son règne de puissance s'étend sur toutes les nations. Son règne de grâce s'étend sur toute l'Église. Sa domination sur l'un se fait au profit de l'autre. Il gouverne le monde pour le bien de son peuple. Le livre d'Esther démontre les soins tendres et la protection que Dieu assure à son peuple. Le Seigneur peut facilement agiter un roi et l'empêcher de trouver le sommeil une nuit particulière. Notre Dieu peut facilement inverser les desseins des méchants, comme Aman. Ça dit dans Job 9, verset 4, « À lui, la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément? » Même si le nom de Dieu ne figure pas dans le livre, sa présence, elle, y est partout manifeste. Que de coïncidences dans ces pages. Relevons par exemple l'attirance particulière exercée par la juive Esther. Son choix par le roi parmi des centaines de candidats. La découverte fortuite par Mardochée du complot contre Assuérus. Le compte-rendu écrit de la loyauté et de la fidélité de Mardochée. L'insomnie du roi en cette nuit particulière. Son désir de prendre connaissance des chroniques du royaume, le choix judicieux de son serviteur qui lui lit justement cette partie oubliée de l'histoire, le souci du roi qui cherche à savoir si Mardochée a été récompensé, tous ces incidents s'unissent pour constituer une preuve irréfutable que Dieu maîtrise tout. Comme ça dit, le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre, mais sa main est présente partout par le contrôle des circonstances, par la providence. C'est un livre merveilleux pour ça, à méditer sur cet aspect-là. La doctrine de la souveraineté divine est une caractéristique essentielle de ce livre. Il ne s'agit cependant pas d'une sorte de fatalisme, car là où les actions et les desseins de Dieu ne transparaissent pas clairement, l'importance de l'obéissance et de la fidélité de l'homme apparaît d'autant plus. Bien que souverain, Dieu décide de se servir de gens ordinaires pour triompher des circonstances les plus impossibles et accomplir ses desseins de grâce. Le reste, c'est le contenu du livre. Alors, à l'intérieur de cela, on nous mentionne qu'il y a trois fêtes qui marquent le livre d'Esther. D'abord, il y a le festin d'Assuérus. Au début, on a le roi qui veut fêter, et c'est intéressant, le chapitre 1 et le chapitre 2. On a aussi le banquet d'Esther, quand Esther organise un banquet et auquel elle invite Aman et elle invite... Alors, c'est très intéressant. Et la fête des Purim, qui est à la fin, qui est mentionnée à la fin, quand Dieu a permis que son peuple ne se fasse pas éliminer par la décision d'Aman et par le fait que le roi avait approuvé cette décision-là. Alors, la fête des Purim, elle est décrite à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Alors, on va regarder un petit peu le festin d'Assuérus et ses conséquences. Le roi Assuérus règne sur le vaste empire des Mèdes et des Perses de 486 à 464 avant Jésus-Christ. Son royaume inclut le pays de Babylone. En fait, le roi règne depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. C'était énorme. C'était un roi d'une grande puissance. Beaucoup plus que même les royaumes aujourd'hui, comme les États-Unis. C'est encore plus gros. Parce que quand on regarde sur une carte tout ce qu'il contrôlait, 127 provinces, c'était énorme. Alors, c'était pas... Alors, il est le fils de Darius, mentionné dans les livres d'Esdras et de Daniel, et par sa mère, petit-fils du roi Cyrus, qui promulgua l'édit autorisant les Juifs à rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple. La troisième année de son règne, Assuérus organise un grand festin pour les princes, les commandants de l'armée, les administrateurs civils des 127 provinces. Autrement dit, c'était un gros party qu'il y avait là. un gros party royal. Après 6 mois de festin ininterrompu, imaginez un roi qui peut se permettre d'inviter 127, plus qu'un dirigeant, probablement par groupe, puis qui font un party qui dure 6 mois. C'est spécial, ça prend quelqu'un qui a un peu de réserve. Alors, après 6 mois de festin ininterrompu avec les grands de son empire, le roi invite tous les habitants de la capitale à s'associer aux festivités pendant 7 autres jours. Le dernier jour, il leur donne à la reine Vashti d'assister à la dernière soirée de festin, mais elle refuse catégoriquement de se présenter et de parader devant les invités masculins de son mari. Le roi Assuérus entre dans une violente colère et sur l'avis des sages de sa cour, il révoque et destitue la reine Vashti. On fait alors venir à Babylone les plus belles jeunes filles du royaume pour que le roi puisse choisir une nouvelle femme à son gré. Parmi toutes les vierges présentées au roi, il y a une juive nommée Hadassa, connue sous son nom perse Esther. Née en exil dans l'Empire perse et orpheline très jeune, elle est adoptée par son cousin Mardoché, un Israélite de la tribu de Benjamin. Après les préparatifs coutumiers, on présente Esther au roi, qui l'a choisie comme reine. Ainsi, 4 ans après son divorce avec Vashti, Assuérus épouse Esther, qui devient reine de toute la Perse. À cet instant du récit, Esther n'a pas encore dévoilé sa race. Après son mariage, Esther continue d'entretenir des relations étroites avec Mardoché, son gardien bien-aimé et son guide de confiance. Lors d'une de ses visites dans les annexes du palais, Mardoché a connaissance d'un complot visant à assassiner le roi. Il en informe Esther, qui porte la nouvelle à la connaissance de son mari Assuérus. La conspiration est éventée et les coupables pendus. Le rôle de Mardoché dans la protection de la vie du roi est écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Mais l'incident semble rapidement oublié. C'est comme si le roi, il y a quelqu'un qui a sauvé la vie, mais il n'a pas donné de signe de reconnaissance. Quelques temps après son mariage avec Esther, le roi Assuérus nomme Aman la Gagite au poste de premier ministre et ordonne au peuple de lui témoigner le plus grand respect. À son passage, les gens doivent se prosterner et lui rendre hommage. Mais Mardoché refuse. Interrogé pour les raisons de ce refus de se prosterner devant Aman, Mardoché explique qu'il est juif. Au cours de leur longue histoire, on compte par milliers les juifs qui n'ont pas hésité à se prosterner devant qui que ce soit ou quoi que ce soit s'ils ne pouvaient en tirer avantage. Le fait de se prosterner devant un dignitaire n'allait à l'encontre d'aucune loi de Dieu. Les Israélites avaient l'habitude de se prosterner la face contre le sol devant une personne de haut rang, surtout devant un roi. Le refus de Mardoché d'honorer Aman de cette manière doit donc avoir une autre cause. Il est probable que les Perses considéraient les dignitaires, et surtout le roi, comme des divinités. Le roi avait donc ordonné que cet hommage, vraisemblablement assimilé à une révérence et à un acte d'adoration d'un dieu, soit rendu à Aman en tant que son représentant. Mardoché ne pouvait le faire sans renier sa foi. L'homme qui avait conseillé à sa jeune protégée de ne pas dire à quel peuple et à laquelle race elle appartenait, ne manque pas ici d'afficher ses convictions. En déclarant qu'il est juif, il laisse entendre qu'il est un craignant Dieu, un homme de principe, profondément attaché à Dieu. Aman est furieux. La découverte que Mardoché est juif ne fait qu'attiser sa haine, car lui-même est Amalécite, un descendant du roi Agag. L'hostilité séculaire entre Amalek et Israël s'allume de nouveau. Aman projette l'anéantissement de toute la race d'Israël en un jour bien précis, par une stratégie subtile et en cachant soigneusement la vérité au roi. Aman obtient que le souverain signe un décret autorisant l'extermination des Juifs dans tout l'Empire, ce qui incluait les Juifs retournés à Jérusalem. Hey, c'était gros. Il y avait des Juifs dans 127 provinces, c'était comme c'était réparti un petit peu internationalement. Apprenant la nouvelle, Mardochée en informe la reine Esther, qui ignore tout de ce décret. Son cousin la presse d'user de son influence sur le roi. Ses propos constituent le message central de tout le livre. Il lui dit, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es de la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Il est en train d'y faire voir la main de Dieu dans le fait qu'il est rendu là. Alors, la confiante tacite et évidente de Mardochée dans la providence du Dieu d'Israël est une preuve supplémentaire qu'il est vraiment un homme de Dieu. Alors, après ça, on a les événements qui mènent au banquet. Alors, on le sait, sans aller tout le lire au complet, là, juste passer les événements menant au banquet. Alors, il était invité, et lui, en attendant, l'autre, quand il s'est présenté, Mardochée ne s'est pas... Et il était fâché, il est allé voir sa femme, il dit « Moi seul, j'ai été invité. » Et sa femme, elle lui a dit « S'il est un juif, tu vas avoir des problèmes. » Et là, lui était fâché, il a dit « Élève un mât, et quand je vais sortir du chaud de la reine, je vais faire pendre Mardochée à ce mât-là. » Alors, en gros, là, l'histoire, c'est à peu près ça. Et quand la reine a fait son repas, et là, elle lui a dit que l'intention d'Aman, c'était de non seulement de tuer tous les Juifs dans toutes les régions, mais qu'elle-même était juive, donc c'était un ordre de l'éliminer elle-même. Et c'était la reine. Et là, le roi, il a vu clair dans le jeu d'Aman, et il a décidé d'annuler et de permettre aux Juifs de se défendre dans toutes les régions. Alors, en gros, l'histoire, c'est ça, sans avoir besoin de la relire au complet. Mais ce qui est intéressant... C'est le dernier paragraphe de la page 10, pour ceux qui suivent sur Internet ou quoi, là, vous avez vu, ça a téléchargé les notes puis à la page 10, le dernier paragraphe. Au jour fixé, 9 mois après la promulgation du second décret, les Juifs tuent 500 de leurs ennemis dans Suse, la capitale, et 75 000 dans les provinces. Alors, vu qu'il y avait eu... par l'influence de Mardochée, de pouvoir se défendre, ils disent ici que 500 personnes dans la capitale ont été assassinées, les Juifs se sont tout simplement défendus, puis dans tout le territoire, 75 000 personnes. Alors, on voit qu'il était sérieux dans ses affaires. Alors, le lendemain, 300 nouvelles victimes viennent s'ajouter à celles de la veille de la capitale. On estime que l'Empire perse, qui s'étendait... de l'Inde à l'Éthiopie, comptait environ 100 millions de sujets. Mais 100 millions de sujets, pour cette époque-là, c'était énorme. Alors, le nombre des Juifs devait osciller entre 2 et 3 millions, parmi lesquels 500 à 700 000 hommes étaient capables de porter des armes. Ça dit dans le chapitre 9, verset 2, « Personne ne put leur résister ». Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. D'où penser qu'en venait cette crainte-là? C'est Dieu qui la mettait dans le cœur. Ils ont compris qu'ils étaient juifs et que le Dieu des Juifs était sur leur côté. Alors, c'est ce qui a permis qu'ils ont eu la crainte des Juifs. Et c'est là qu'on a la fameuse institution de la fête des Purim dans le chapitre 8, verset 1, aller jusqu'au chapitre 10. Alors, ce revirement remarquable de situation eut pour effet l'institution de la fête des Purim comme mémorial perpétuel pour les Juifs. Ce nom lui vient de Pur, le sort, qui veut dire le sort, car Aman avait jeté le sort pour la destruction des Juifs. Les Juifs, aujourd'hui, partout dans le monde, parlent encore de cet événement-là. C'est important, il y a des belles leçons là-dedans. Quelques applications pour le texte qu'on vient de voir aujourd'hui, pour l'ensemble du livre. Apprenons à discerner la main de Satan dans toute opposition à l'œuvre de Dieu. Revêtons toutes les armes de Dieu pour le combattre efficacement. Sachons également que Dieu est le maître absolu et que le malin ne peut faire quoi que ce soit sans la permission expresse de Dieu. Deuxième, méditons sur les leçons morales du livre d'Esther. La priorité de la beauté intérieure et spirituelle sur la beauté extérieure et physique. La soumission à l'État. Les occasions que Dieu nous donne de faire éclater sa gloire et que nous devons saisir. Et la protection souveraine de Dieu dans la vie individuelle et dans la vie collective de son peuple. Troisième application, imitons le courage d'Esther et de Mardochée qui n'hésitèrent pas à risquer leur vie pour ne pas déshonorer Dieu et chercher le bien du peuple de Dieu. Louons Dieu pour son action constante et souveraine dans nos vies, même lorsque nous ne le sentons pas, qu'il soit éternellement béni et adoré. Amen.